VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. RDC, bilan de 33 morts confirmés au sujet de l'accident du train de marchandises qui a déraillé et pris feu hier dans le sud-est du pays. Les autorités congolaises et la radio onusienne Okapi ont annoncé aujourd'hui que la catastrophe a coûté la vie à 33 passagers clandestins et blessé 26 autres. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
Sur son site internet, Okapi parle de 33 tués, plusieurs blessés et brûlés dans l'accident de ce train qui allait de Lubumbashi à Luena dans la région minière du Katanga. Les faits se sont produits à Biofoué, une gare située à près de 30 km de Lubudi dans la province du Lualaba, subdivision de l'immense Katanga. Le convoi transportait 13 wagons, dont des citernes d'essence. Les passagers se trouvaient à bord de ce train de marchandises après être montés illégalement pour se déplacer. Le 22 avril 2014, un train de marchandises transportant plusieurs centaines de personnes avait également déraillé à hauteur de la localité de Katongola.
Toujours concernant le sud-est de la RDC, à Lubumbashi, la grande métropole de cette région, la police a installé son quartier général à Machipicha suite aux manifestations à répétition contre le régime du président Joseph Kabila. C'est ce qu'affirme notre correspondant sur place, Narval Mabila. L'annonce a été faite par le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Paulin Kiungu, lors d'une grande parade de toutes les unités de la police à Machipicha. Selon notre correspondant sur place, certains habitants n'apprécient pas cette présence policière et se disent prêts à en découdre avec la police. Le mercredi 15 novembre, journée prévue pour les manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. En Centrafrique, enquête des autorités sur les violences du week-end à Bangui. Au moins 7 personnes ont trouvé la mort dans le quartier musulman de la capitale. Bagassi Koura.
4 personnes sont mortes et une vingtaine blessées samedi soir dans une attaque à la grenade contre un café de Bangui, un incident suivi par des représailles qui ont fait 3 morts. Ce sont là les premières violences significatives dans la capitale centrafricaine depuis début 2017. L'attaque par des hommes non identifiés contre ce café où jouait un célèbre chanteur local s'est produite au PK5, un quartier qui a longtemps été l'épicentre des violences communautaires qui ont secoué Bangui ces dernières années. Le café visé, au carrefour de la paix, c'est son nom, se situe à la limite des 3e et 5e arrondissements dans le quartier musulman poumon commercial de la ville, selon le ministre de la Sécurité publique, Henri Wanze, qui s'est exprimé dimanche à la radio d'État. 4 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées. Une enquête officielle a été ouverte.
La lutte contre les djihadistes au Sahel, des experts américains sur les traces de l'embuscade armée qui a coûté la vie à 4 soldats américains et 4 militaires nigériens. Une équipe d'enquêteurs américains et nigériens s'est rendue hier dans le village de Tongo Tongo au Niger. Objectif, avoir une meilleure idée de l'embuscade armée du 4 octobre, du lieu de l'attaque et des lieux environnants. C'est ce qu'a annoncé AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Les conclusions de cette enquête dirigée par le général Roger Clou, chef d'état-major d'AFRICOM, ne seront pas publiés avant janvier 2018, a annoncé le Pentagone. Burkina Faso, des journalistes africains sont réunis à Ouagadougou à l'occasion du tout dernier Festival international de la liberté de la presse, FILEP. Les participants se penchent sur la responsabilité et le rôle des journalistes face à la menace terroriste et aux défis posés par l'insécurité. Ces assises ont été facilitées par le Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Les détails avec notre correspondant Issa Napon.
À cette 7e rencontre annuelle de la liberté d'expression et de la presse, les participants au FILEP ont pendant 4 jours à Ouagadougou épluché les défis sécuritaires, notamment les risques liés au traitement de l'information sur le phénomène du terrorisme. Pour le promoteur de la radio privée du centre nord burkinabé, Kaya FM, le journaliste se retrouve souvent entre le marteau et l'enclume, surtout quand il est question de terrorisme, pointe Madi Ouedraogo.
Le journaliste qui va dire aujourd'hui qu'il a retrouvé Diko, je pense qu'on a plus besoin de lui que Diko. On ne va plus aller à l'essentiel, mais
mais d'abord on va s'acharner sur le journaliste.
Le vrai rôle du journaliste reste incompris jusque dans les cercles de dirigeants, dénonce le Congolais Stanislas Nkundié, président de l'Union des syndicats des journalistes d'Afrique centrale.
Le journaliste, il a cette capacité d'obtenir l'information que le service de renseignement ne peut pas obtenir. Et lorsque vous les trouvez, malheureusement, on vous compare à un terroriste. On pense que vous avez des liens avec les terroristes parce que vous avez appris ou vous avez découvert ce qu'eux n'ont pas été en mesure de trouver comme information. Et nous devenons cibles des fautes de sécurité au lieu d'être des partenaires.
Savoir rester objectif dans son travail en donnant des pistes ou alors en dénonçant les bavures qui surviennent du fait du contre-terrorisme est inhérent au rôle des journalistes afin de protéger l'état des droits, soutient Gezouma Sanogo. Il est le président de l'influente association des journalistes du Burkina.
Comme il faut collecter l'information pour faire son travail, les journalistes côtoient les militaires. En fait, ils sont sur le même terrain. C'est pour essayer de comprendre même les phénomènes et aussi montrer en fait la réalité du terrain. Est-ce qu'on ne viole pas les droits des populations? Vous ne pouvez pas espérer développer un pays si les journalistes ne peuvent pas faire directement leur travail.
Venus d'une trentaine de pays africains, pour la plupart, les participants ont aussi débattu du radicalisme et de l'état actuel de la liberté de la presse sur le continent. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Togo, manifestation en vue cette fin de semaine dans le pays. Dans un communiqué, Éric Dupuis, porte-parole de la coalition des 14 partis d'opposition qui font campagne pour le départ du président Fornia Singbe, a annoncé des journées de marche les jeudis, vendredis et samedi prochains contre le pouvoir en place. Selon M. Dupuis, les chefs de l'opposition comptaient se rendre à Sokodé, Bafilo et Mango, trois villes du nord et du centre du pays qui sont le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants depuis fin août. Mais le gouvernement s'y est opposé, ces villes étant pratiquement en état de siège, selon M. Dupuis. Somaliland, cette partie de la Somalie veut se détacher et créer une république autoproclamée du Somaliland. Les habitants de cette région de la Somalie votent donc aujourd'hui pour élire leur président avec l'espoir que cette troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991 renforcera leur quête de reconnaissance internationale. Ce territoire un peu plus grand que la Grèce se distingue du reste de la Somalie par sa stabilité et une composition clanique plus homogène. Toutefois, le Somaliland n'est reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. Purge anticorruption sans précédent en Arabie Saoudite. Plus de 200 personnes ont été arrêtées, notamment des princes, des ministres et des hommes d'affaires. Cette opération coup de poing fait suite à la mise en place d'une nouvelle commission anticorruption présidée par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Les malversations atteindrait 100 milliards de dollars sur quelques dizaines d'années. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris le directeur adjoint et chercheur auprès de l'IRIS, Didier Bignon.
Ce qui me surprend, c'est la brutalité de cette opération et l'ampleur incontestable de cette vague de purges et d'arrestations. Parce que je ne suis pas du tout convaincu par les arguments qui sont utilisés par le pouvoir saoudien et notamment par Mohamed Ben Salman, qui prend prétexte d'affaires de corruption pour procéder à ses arrestations ou à ses assignations à résidence. La corruption est quasiment un principe de fonctionnement pour une raison très simple. La plupart des grands chefs d'entreprise sont par ailleurs membres des familles princières. Il y a toujours cette proximité entre la sphère économique et la sphère politique.
Cette évolution politique va-t-elle renforcer le pouvoir du prince héritier?
Ce jeune prince, très ambitieux et qui est promis à occuper la place de son papa, cherche aujourd'hui à écarter tous ceux qui pourraient être des concurrents. Par contre, ce qui est clair, c'est la première fois qu'une vague d'arrestation ou d'assignation à résidence d'une telle ampleur a lieu dans le royaume saoudien, et ce de façon publique. Ce jeune prince très ambitieux, très impulsif aussi, a la volonté de moderniser le régime saoudien. Donc là, il y a une contradiction, parce qu'à la fois, il utilise de vieilles méthodes assez répressives pour écarter ses éventuels opposants, et en même temps, je pense qu'il est animé d'une volonté de moderniser le royaume.
Didier Billion, directeur adjoint et chercheur auprès de l'IRIS à Paris. Et pour terminer, le président Donald Trump est aux Philippines, dernière étape de sa tournée asiatique. Le chef de l'exécutif américain a loué aujourd'hui les qualités de ses relations avec le président philippin Rodrigo Duterte. Mais M. Duterte est très critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme en raison de la guerre sanglante qu'il a déclenchée contre le trafic de la drogue dans son pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.